Vous êtes sur RTL.
C'est votre médecin. RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h21, bonjour Pierre Rosanvallon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes historien, sociologue, professeur au Collège de France et vous venez de publier Le siècle du populisme aux éditions du Seuil, un livre dans lequel vous dessinez les contours d'une vraie doctrine politique puissante et attractive que l'on considérait jusqu'à il y a peu comme une dégénérescence de la démocratie. On va y revenir. Première question, quelle définition donnez-vous, vous, du mot populisme ?
Eh bien, la définition que je donne est différente de la définition ordinaire. La définition ordinaire, c'est de dire le populisme, c'est un cri de colère. Mm-hmm. Le populisme, c'est une réaction contre les dysfonctionnements de la démocratie, contre les inégalités, bref, contre tout ce qui ne va pas dans notre société.
Oui.
Mais je pense que cette réaction de colère, elle existe, mais ça n'est pas ce qui définit positivement le populisme. Le populisme a cette dimension dégagiste, a cette dimension de rejet, a cette dimension critique, a cette dimension de cri de colère, mais c'est aussi une vision de la société. Et c'est cela qu'il faut comprendre en profondeur.
En termes, vous diriez que c'est une idéologie et qu'on doit la prendre comme telle et la respecter comme telle ?
Exactement, la respecter comme telle parce que le populisme se définit comme un projet pour la démocratie. Un projet pour une démocratie considérée comme... disons, en mauvais état. Et je crois que ce diagnostic négatif, on doit l'accepter. Mais le problème, c'est celui des solutions qui entend être apportées par le populisme. C'est là que doit porter la discussion sur le populisme. Si on veut le critiquer, et moi je pense qu'il faut le critiquer, il faut d'abord le comprendre, le prendre au sérieux, et pas de façon superficielle. Sans mépris. En disant, c'est de la démagogie, c'est quelque chose de superficiel. Non, il y a un véritable fondement, il y a une vision positive de la démocratie et il faut le comprendre avant de pouvoir le discuter.
Alors, le populisme a-t-il des théoriciens au sens où le communisme, par exemple, en a eu ?
Oui, le communisme, le libéralisme, le conservatisme, depuis bien longtemps, ils ont eu leurs théoriciens. Le populisme, pas tellement. Il a eu quelques théoriciens d'origine latino-américaine, parce que c'est sur ce continent que tout un ensemble de régimes populistes ont vu le jour depuis les années 1950. Mais le travail n'a pas été fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Oui.
C'est qu'il fallait bien voir que derrière des manifestations d'humeur, derrière des campagnes politiques, derrière des élections et des succès électoraux, il y avait aussi une doctrine. Une doctrine, c'est-à-dire quoi ? Une doctrine, c'est-à-dire une vision de la société.
Oui.
En disant la société, c'est très simple. Aujourd'hui, elle est coupée en deux. D'un côté, les 99,9% même, et de l'autre côté, les 0,1%. Donc, toute la question de la société, c'est le rapport entre la masse immense et puis une petite poignée de profiteurs, de milliardaires, de technocrates, quels que soient les mots que l'on emploie. C'est vraiment une petite minorité qui, je dirais, défait la société.
Dites-moi, je reste sur les 99,9% dont vous nous parlez. C'est intéressant qu'on emploie le terme, parce que même le mot « peuple », il pose problème. Quand on prétend parler au nom du peuple, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire,
vous savez,
voire d'invraisemblable.
Pendant la Révolution française, Mirabeau avait une formule très juste, il disait « le mot peuple en dit trop ou trop peu ». Parce que si par le mot peuple, on veut dire l'ensemble de la société, eh bien, il faut véritablement représenter l'ensemble de la société. Et ces 99,9%, en présupposant qu'il y a vraiment des 0,1%, ce qui est le cas, parce qu'effectivement, il y a quelques milliardaires qui dominent, je dirais, la richesse dans le monde, il y a un certain nombre de personnes qui sont en quelque sorte la crème de la société, mais ces 99,9%, ils sont aussi un tissu de tensions, un tissu d'inégalités. Regardons le débat contemporain sur les retraites.
Oui.
Que nous dit le débat contemporain sur les retraites ? Il nous dit qu'il y a des discussions sur la solidarité entre les générations, sur la solidarité entre les âges, sur, dans les métiers, les différences à faire en termes de pénibilité, sur les carrières hachées et les carrières régulières. Donc on voit là que la discussion sur les retraites nous montre que la société, elle est constituée de tout un ensemble de sentiments d'injustice, d'inégalité, de tensions qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, il y a un problème de la grande richesse dans nos sociétés. Bien sûr, Oxfam a eu raison de dire que si 2100 milliardaires dans le monde possèdent 60% de la richesse, eh bien là, il y a un problème considérable. Mais cette insistance mise sur les plus riches ne doit pas faire oublier que c'est toute la société qui doit se former. Donc le peuple, le mot peuple, c'est un projet et ça n'est pas déjà une réalité.
Dans notre histoire politique française, le mot populisme est associé généralement plutôt à l'extrême droite. Est-ce qu'il existe aussi un populisme d'extrême gauche ou de gauche? Évidemment, on pense parfois à certaines prises de position, notamment de la France insoumise.
Oui, bien sûr. On peut dire qu'en Europe, l'essentiel du populisme dans l'histoire européenne est un populisme originaire de l'extrême droite. Oui. Mais il y a aujourd'hui un populisme d'extrême gauche. Il y a un populisme qui vient de Podemos, il y a un populisme en Espagne, un populisme qui vient de 5 étoiles en Italie, un populisme qui est celui revendiqué de la France insoumise en France, et puis sur d'autres continents, en Amérique latine par exemple, il y a effectivement un populisme de gauche qui était illustré par les noms de Chavez, par les noms de Perón, par les noms de Morales récemment.
Alors, on vient de tenter de définir le mot, on comprend que vous nous dites qu'il faut respecter ce qu'exprime le populisme. Il n'empêche, est-il dangereux pour la démocratie? Est-il dangereux pour nos démocraties?
Alors voilà, là on est au cœur de la question. C'est ce qui est en cause, c'est la conception populiste de la démocratie.
Oui.
Le populisme dit aujourd'hui, la démocratie, bien sûr, il y a des élections, mais on ne représente pas vraiment la société. Et entendons, on peut dire, critiquer et remettre en cause tout un ensemble d'institutions qui sont suspectées d'être les représentants des minorités et pas toute la société.
Tous nos présidents de la République, ce sont des hommes, pour l'instant, tous nos présidents de la République sont contestés au lendemain de leur élection. Je veux dire, comment vivre en paix si le lendemain d'une élection démocratique, on remet en cause le président, quel qu'il soit?
Alors ça, il y a un problème fondamental, c'est que les qualités qui font le bon chef de campagne électorale ne font pas un bon gouvernant. Pour être chef de campagne électorale et pour gagner les élections, il faut être capable de séduction, il faut être un beau parleur, il faut être vraiment une personne attirante par son langage de feu, pourrait-on dire. Mais de l'autre côté, quand on gouverne, et ben c'est un langage qui est plus un langage de larmes, c'est plus un langage des contraintes, et donc il y a mécaniquement, pourrait-on dire, une coupure entre les qualités qui font le bon candidat oui. et les qualités qui font le bon gouvernant. Mais le problème de l'insatisfaction démocratique, sur le fond, il tient aussi au fait qu'on a l'impression que la démocratie fonctionne mal parce que ce que veulent les citoyens n'est pas vraiment respecté. Mais pourquoi ? Parce que les citoyens ne peuvent pas simplement considérer que la démocratie, c'est les élections. La démocratie, c'est aussi la possibilité d'avoir un œil sur le pouvoir, que ce pouvoir rende des comptes, que ce pouvoir soit soumis à des enquêtes, qu'il soit plus transparent. Donc on peut dire que la démocratie actuelle valorise l'élection, alors qu'il faudrait valoriser tout un ensemble d'autres fonctionnalités démocratiques. La surveillance. Il y avait un grand théoricien anglais qui disait, jusqu'à maintenant, on s'est préoccupé de donner une voix au peuple à travers le bulletin de vote, la manifestation, les pétitions, mais il faudrait aussi qu'il y ait l'œil du peuple. Et c'est pourquoi ? Parce que l'œil du peuple, il est ouvert en permanence. Et donc, on voudrait une démocratie, non pas une démocratie intermittente, mais une démocratie permanente.
Ce devrait être le rôle notamment de notre Parlement.
Bien ouais. sûr, mais ces fonctions du Parlement ont été amoindries parce qu'aujourd'hui, la fonction première du Parlement, c'est soit de soutenir, soit de critiquer le pouvoir. Il n'a pas d'indépendance par rapport au pouvoir. Il a en quelque sorte la puissance d'orchestration ou la puissance de critique.
Alors, quelles sont les alternatives au populisme? On a envie de dire la parité, le référendum, mettre en place la révocation, mettre en place un tirage au sort pour désigner les représentants?
Eh bien, le propre...
Ça peut paraître absurde, mais tout mérite d'être réfléchi, en fait.
Exactement, parce que le propre de populisme, c'est de penser qu'il y a une seule bonne solution pour la démocratie. Enfin, exactement deux. Une première solution, c'est d'avoir un leader qui soit vraiment l'incarnation du peuple, l'homme-peuple. Et puis la deuxième solution, c'est le référendum comme l'instrument sacré et, on peut dire, privilégié de la démocratie. Je pense au contraire que pour faire vivre la démocratie, il faut la démultiplier. Bien sûr, il faut donner une place au tirage au sort. Pourquoi pas aussi à de la révocation? Mais il faut aussi donner une place à la délibération. Il faut donner une place à la possibilité de surveillance du pouvoir. Il faut renforcer aussi toutes ces institutions indépendantes, comme la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, oui. comme les cours constitutionnelles. La démocratie ne peut pas vivre simplement d'une institution parfaite. Elle doit vivre parce qu'elle est structurellement imparfaite, mais qu'en démultipliant les institutions imparfaites, eh bien peut-être qu'on peut améliorer cette démocratie.
Merci beaucoup, Pierre.